Alors, mon thème ce matin, c'est que mérites-tu? Que mérites-tu? Ah! Alors, la Bible nous parle de ce dont on mérite. C'est assez clair. Et on se rend compte que Dieu ne change pas, mais il y a certains paramètres qui ont changé. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas être flashées, on a une mauvaise nouvelle, c'est que pour ceux qui viennent de Tourcoing jusque Lille maintenant, la vitesse est passée de 110 il y a une certaine époque à 90, de 90 maintenant à 70, et on s'est habitué à rouler à 70, moi j'avais du mal à rester à 70, et maintenant on a notre ami le radar qui est là et qui est prêt à flasher si on dépasse la limitation. C'est ce qu'on appelle, on connaît le code de la route, donc quand on voit le panneau 70, on a été formé, on sait qu'on doit rester à 70. Même si on sait pertinemment, Claude aime bien les voitures de sport, que s'il roule à 180 à cet endroit-là, il n'y aurait aucun risque pour les autres, il doit obligatoirement se conformer à la réglementation et rouler à 70. Du coup, il a acheté une Clio maintenant, Claude. Je l'ai connu, il y avait une belle voiture, vous voyez, c'est pour ça que je parle de lui. Il aime bien la vitesse. Donc, vous voyez, on doit toujours se conformer, on doit changer notre manière de fonctionner. Et on vit dans un monde où il y a énormément de codes, les codes changent, les mœurs évoluent, et on doit s'adapter à tout ça. Et avec Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait l'Évangile, qui sont jeunes dans la foi, on n'était pas toujours sous le temps de la grâce. Le chant qu'on a chanté avec Sandy ce matin, « Ta grâce me justifie », on n'aurait pas pu le chanter, parce que c'était quelque chose qui n'était pas connu. On aurait dit « Ô Éternel, tu es grand, et vous allez aller voir les cantiques de David, ses chants et tout ça, et vous allez voir comment était la louange à l'époque. On se rendait compte de la magnificence de Dieu, mais on ne parlait pas de la grâce de Dieu forcément. Le peuple de Dieu avait été choisi, d'accord, le peuple d'Israël, et vivait sous la loi de Dieu. Et souvent on pense que la loi c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, parce que Dieu a eu besoin de révéler le péché. Le péché, c'est l'histoire de l'humanité, vous connaissez tout ça, Adam et Ève ont péché, point, c'est comme ça. Et ça ne change pas, l'homme n'a pas changé depuis. L'homme a toujours des faiblesses, encore aujourd'hui, année après année, centaines d'années après centaines, siècle après siècle. Voilà, l'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé, il est toujours le même, et Dieu n'a pas changé non plus, mais les paramètres ont changé. À l'époque, il fallait suivre certaines règles. Finalement, cette loi nous montrait, nous révélait, oui, nous révélait le péché, mais surtout nous révélait la sainteté de Dieu. Souvent, on parle souvent du péché. On a parlé du péché il y a 2 semaines. Oui, le péché est là, mais cette loi aussi nous montre à quel point Dieu est saint et il est quelque part inatteignable dans notre état. Ça marche? Vous me suivez? Ça, c'est la loi. Et puis, cette loi, elle a été destinée seulement au peuple d'Israël. Elle concernait seulement ce peuple-là. Elle ne concernait pas les autres peuples. Elle concernait le peuple d'Israël. Alors, la loi impose à l'homme d'être en conformité avec certains dogmes et certains rites et se base sur le résultat des actions extérieures. Mon action est mauvaise, je suis en faute contre Dieu, il va falloir maintenant que je produise une nouvelle action pour être réconcilié avec Dieu. Et on passait par toutes sortes de rites. Allez lire Deutéronome, ça va vous faire du bien. Vous allez vite revenir dans le Nouveau Testament. Vous allez vous dire, c'est pas pour moi, merci Seigneur, j'ai pas besoin de connaître tout ça. D'accord? Et Jésus, lui, il est arrivé dans un contexte où les religieux de l'époque connaissaient très bien la loi. Il y avait plusieurs groupes politico-religieux de l'époque, je vais en citer seulement 2. On avait les Sadducéens, alors eux, ils étaient plutôt libéraux, d'accord? Et ils étaient favorables à l'occupation romaine, plutôt favorables. D'accord ? Et ils se battaient un peu avec les pharisiens qui, eux, étaient vraiment très littéraires par rapport à la Bible et qui, eux, ils n'étaient pas du tout favorables aux Romains. Tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils dégagent. Donc, vous voyez, ils arrivent dans un contexte comme ça où il y a des conflits. Le pays est occupé. Il y a différentes mœurs qui se croisent. On doit vivre avec l'occupant. On a notre propre foi. Comment elle se manifeste concrètement dans notre vie ? On suit des rites. Et Jésus arrive au milieu de tout ça. Lui, il arrive au milieu de tout ça. Et il y avait un objectif. Et souvent, j'ai l'impression que même nous, on oublie l'objectif de Jésus. Quel était l'objectif de Jésus? Quel était son but? Il dira, mon but, c'était de faire la volonté du Père. C'était son seul but. Jésus est venu accomplir et faire la volonté du Père pour l'humanité. Et vous allez constater que quand Jésus va commencer son ministère, il va prendre les disciples avec lui, et puis eux, ils ont envie d'imposer leur volonté à Jésus. Est-ce que tu ne pourrais pas faire ceci? Est-ce que tu ne pourrais pas faire cela? Et puis d'autres vont penser que Jésus était le Messie, qui allait régler tous les problèmes politico-religieux, les guerres, les conflits. Pensez ça. Et Jésus, lui, ne se préoccupait pas de tout ça. L'objectif, c'était de faire la volonté de son Père. Alors que la loi regardait tous tes actes extérieurs, eh bien Jésus, lui, était venu pour offrir sa vie pour toi et puis pour te donner l'opportunité d'avoir accès au Père et de goûter à nouveau à sa sainteté. C'était l'objectif premier de Jésus, c'était de se sacrifier, de donner sa vie pour toi. C'est quand même fou. Son premier objectif, c'était celui-là. La grâce est donc une situation dans laquelle une personne bénéficie des choses qu'elle ne mérite pas. Pas du tout, en fait. Et elle est soustraite à ce qu'elle mérite réellement. On a été soustrait à ce que nous méritions réellement par la foi en Jésus-Christ. Pas parce qu'on suit certains rites, certaines obligations, mais parce que réellement, notre foi en Jésus-Christ, en sa résurrection, en ce qu'il a fait, eh bien, nous amène à cette grâce de Dieu maintenant, où Dieu nous voit au travers du filtre Jésus. J'ai donné mon Fils une fois pour toutes, je l'accepte. Ça marche ? C'est l'objectif de Dieu pour toi et pour moi, pour notre vie. Alors, on va lire quelques versets pour confirmer tout ça, parce que ce serait bête de me croire sur parole. On va lire ces versets, donc on va commencer par... On va en lire pas mal, donc si vous avez vos Bibles, que vous préférez une version, vous pouvez la sortir. Alors je vais commencer par Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. C'est pas dans l'ordre, Holden. Tu vas devoir chercher. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu peux le laisser projeter. Donc ça, c'est la base de notre foi. C'est littéralement la base. Et si ça, ce n'est pas profondément ancré en toi, eh bien, lorsqu'il va y avoir un vent, une péripétie, eh bien, tu risques de chavirer. Ça doit rester dans ta tête, ça doit rester même dans ton cœur. Et au-delà de quelque chose en quoi tu crois intellectuellement, ça doit être une révélation pour toi. Que le salaire du péché, c'est la mort. Je vous le dis toujours, allez dire à votre voisin qu'il a péché. Il va te regarder, il va dire, pardon ? Qu'est-ce que c'est le péché ? Vous comprenez ? Même le péché, tu as besoin de comprendre ce que c'est. C'est une révélation qui vient de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors ma question, c'est... Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Pourquoi es-tu là ce matin? Est-ce que tu es venu pour avoir une bonne louange? Est-ce que tu es venu pour entendre la prédication? Est-ce que tu es venu parce que tu étais invité à manger après? Donc tu t'es dit, je vais en profiter pour aller au culte. Est-ce que tu es venu parce que tu avais envie de voir quelqu'un? Pourquoi es-tu venu? Eh bien moi, quand je lisais ce verset-là, je me suis dit, Seigneur, moi ce matin, je vais venir. Parce que toi, tu m'as donné quelque chose que je ne pouvais pas atteindre, que je ne méritais pas, c'est la vie éternelle. Seulement parce que j'ai cru en toi. Pas parce qu'on m'a éduqué, mais parce qu'un jour, j'ai dit, Seigneur, je désire te suivre. Et je me suis dit, ça, c'est une raison pour moi de venir te louer. C'est une raison pour moi de venir t'adorer. C'est une raison de venir lever les mains et dire, Seigneur, merci, vraiment, vraiment merci. Et parfois, on oublie ça. On est dans notre activisme, dans ce qu'on fait pour Dieu, et on passe à côté de l'essentiel. Seigneur, je suis déjà là, ma présence, déjà elle est là, parce que tu as fait quelque chose pour moi que je ne méritais pas et je veux être reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Un petit peu, c'est bien. Après, on sera beaucoup reconnaissant. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors si tu es là ce matin et tu te dis, je n'arrive pas à croire en tout ça, Eh ben, je vais te. C'est pas ce que je vais dire. C'est pas ce que je vais. Les versets qu'on va lire qui vont te convaincre. C'est Dieu qui va te convaincre. Parce qu'on prêche un Dieu vivant. On prêche pas un gourou no sec, le fils ou père, qui te dit ce que tu dois faire. On prêche un Dieu vivant qui te parle directement et qui parle à ton cœur. Et comme c'est un don de Dieu, à un moment donné, lorsque tu viens dans l'assemblée, nous, on a vu des gens transformés, ils entendent la parole de Dieu, mais ils se disent, mais ce qu'ils disent, ces gens-là, c'est compliqué, ça a l'air simple. Est-ce que vous avez vécu ça? Ça a l'air simple et pourtant très compliqué à mettre en pratique. Ça a l'air simple, mais je ne le vis pas. Ça a l'air tellement simple de croire comme ils croient, mais je n'arrive pas à croire comme eux. Est-ce que ça vous est arrivé, ceux qui ont donné leur vie à Jésus? Hein, ce n'est pas facile. Moi, j'avais du mal à croire comme mes parents, hein, pourtant fils de pasteur, quoi, tu vois. Mais je n'arrivais pas à croire comme eux. Il a fallu que je dise, Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur et que j'ai cette révélation, que tu me donnes cette foi de croire en l'impossible. Je ne t'ai pas vu, je n'étais pas là à la croix du calvaire. Il n'y a pas énormément de preuves scientifiques qui me montrent que c'est vrai. C'est compliqué. Donc, on parle ici d'une révélation. Donc, si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore eu ta révélation, eh bien, tu dis, Seigneur, mon Dieu, j'ose te prier. Eh bien, donne-moi ce don de croire en toi simplement. Parce que je crois que ça va changer ma vie. Et je n'arrive pas à le faire par moi-même. Tu ne mérites pas ça. Dieu te le donne, te l'accorde. Et il faut que ta foi soit suscitée. Ça marche ? Troisième verset, Romains 10, verset 9. Ah, ça, j'aime bien ce verset-là. Hein. Ce matin-là, je l'ai relu et il m'a encouragé. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, tu seras sauvé, on l'a dit avant. Mais regardez le premier verset. Si tu reconnais quoi? Publiquement. C'est-à-dire que tu n'as pas honte de l'Évangile. Tu n'as pas honte que les gens pensent que toi, tu es un fou parce que tu crois en un truc qu'on n'a pas pu te convaincre par des faits pragmatiques, raisonnables, mais parce qu'il s'est passé quelque chose, tu as eu ce don, cette capacité de croire. Tu n'as pas honte. Donc, c'est un verset qui, par exemple, quelqu'un comme Thierry a compris profondément, aussi par rapport à l'appel que Dieu lui a donné. C'est dit, Seigneur, je n'ai pas honte de toi et je vais confesser publiquement. Je n'ai pas peur de parler. Et c'est pour ça que Thierry, il est animé d'un zèle et il se dit, moi, je vais aller dans la rue, il n'y a aucun problème. On peut me prendre pour un fou, mais je sais ce que j'ai vécu et je n'ai pas peur de témoigner. Alors, on n'est pas tous appelés à sortir comme ça, mais on est tous appelés à ne pas avoir peur de notre bouche à confesser le nom de Jésus. Si dans ton travail, tu as du mal encore à confesser le nom de Jésus devant ta famille, devant tes collègues, eh bien, c'est que la foi, pour l'instant, est naissante et elle a besoin de grandir encore. Et que tu sois capable d'être un témoin et d'avoir cette capacité de dire, dans certaines situations, eh bien, Jésus est mon Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, bah, j'étais avec tous mes collègues, on était assis autour d'une table et j'ai osé parler de Jésus. Et là, j'ai vu dans les yeux d'une dame, eh bien, il s'est passé quelque chose. Et s'il n'avait pas osé, est-ce qu'il aurait eu ce contact? Donc, on a une responsabilité d'être capable d'avoir cette foi, de pouvoir dire, je n'ai pas peur de parler de mon Seigneur. Il est celui qui règne dans mon cœur et je n'ai pas honte de lui. Ça marche? Vous êtes avec moi? Alors tout ça, c'est les bases, c'est bien. Alors, depuis la venue de Jésus, on l'a bien dit, les paramètres ont changé. Maintenant, il est question de la grâce de Dieu. Dieu ne va plus regarder à tes actions. Il ne va plus t'en vouloir, il ne va plus te flasher à chaque fois que tu vas passer à 71. Moi, je passe à 76. Je joue avec le feu. Parce que je sais qu'avec ma voiture, si je passe à 76, eh ben, ça ne flash pas. Vous voyez? Ah, c'est pas bien, hein? Mais je passe à 76. Comme ça, je sais que ça passe, vous voyez? Et je me dis parfois, je vais passer à 78. Parce qu'au pire, il flash, il enlève 7, je n'ai pas de PV. Vous comprenez? Je suis terrible, là, moi. Parce que ça m'énerve. Mon cœur est dans l'amertume quand je le vois, celui-là, tous les jours. Et vous savez ce qu'il voit, Dieu? Il regarde pas que je passe à 76 ou à 77. Il regarde l'amertume qu'il y a dans mon cœur. C'est ça, le problème avec la grâce. c'est que maintenant, la grâce de Dieu, oui, elle te couvre, mais Dieu, maintenant, vient voir ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Chacune de tes pensées. Il s'occupe de ton cœur et plus de tes actes. À l'époque, tu pouvais suivre les règles, avoir un cœur pourri. Dieu regardait que tu avais suivi les règles. Aujourd'hui, tu peux tenter d'enfreindre, mais Dieu va voir ce qui se passe au fond de ton cœur. Ah ! C'est fou quand même. Alors moi, en ce moment, c'est dur. Parce que je suis comme Claude. Je ne vois pas l'intérêt. Hein, Claude, t'es avec moi. Hein, on ne voit pas l'intérêt, nous. Hein ? Et puis, vous avez ceux qui s'arrêtent à 60. Ils ont peur. Tu dis, mais c'est 70, s'il te plaît, avance ! Oh, j'ai pas le temps ! Donc, c'est difficile pour moi. C'est difficile, je vous l'avoue, je vous le confesse. Donc, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à accepter ça. Et vois mon cœur. C'est difficile. Donc, les paramètres ont changé. Dieu voit le fond de nos cœurs. Et vous allez voir comment ça se passe avec Dieu. C'est qu'il y a certaines choses qui peuvent nous faire... Avant, on était sur des routes de campagne. On accepte Jésus dans notre vie. On arrive sur l'autoroute de Christ. Elle ne change pas. Elle sera toujours la même tant qu'il ne sera pas revenu. C'est le temps de la grâce. On est dans le temps de la grâce. D'accord ? Lorsqu'il y a un radar qui flash, ce n'est pas Dieu qui te flash. Dieu va regarder le fond de ton cœur. Il va t'interpeller par le Saint-Esprit. Mais celui qui va flasher, c'est ton ennemi, c'est Satan, celui qui veut t'égorger. Il va te dire, t'es passé à 76, t'es passé à 76, t'es passé à 76. C'est quand tu vas te mettre en colère, eh bien, ça va flasher. C'est pas Dieu qui flash, c'est ton ennemi qui vient t'accabler, qui va te dire, ah, t'es pas parfait, tu vois, parce que lui, il y a un pouvoir. Lorsque tu retombes dans la loi, il y a le pouvoir sur toi. Lorsque tu retombes dans les actes et dans toutes ces choses-là, il récupère le pouvoir qu'il y avait sur ta vie. Et il dit, bah maintenant, je vais te ramener dans ta chair et petit à petit, eh bien, je vais t'accuser. Et puis, à nouveau, eh bien, le salaire du péché sera pour toi la mort. Alors que nous, dans la grâce, c'est Seigneur, je te demande pardon. Tu m'as donné, eh bien, tu m'as donné cette possibilité de me repentir, de reconnaître mes erreurs. Et à nouveau, tu m'acceptes. Ça, c'est le chemin qu'on doit emprunter. Donc, les radars, c'est pas Dieu. D'accord ? Merci. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors aujourd'hui, pour nous, je parlais avec un pasteur pas plus tard que vendredi et il m'a dit quelque chose, ça m'a interpellé. Il dit, écoute Alexis, j'ai un vrai problème. Eh bien, il n'y a aucune stabilité dans mes cultes. Un jour, il y a telle personne, l'autre jour, il y a telle personne. Et il dit, je me fatigue et je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas de stabilité. L'Église n'est pas stable. Les gens ne sont pas stables. Je ne comprends pas. Et il me disait, j'ai l'impression que finalement, l'Église, eh bien, c'est un supermarché. On vient à l'église, on prend ce qu'on a envie de prendre, et puis c'est tout. J'ai dit, écoute, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais chacun a ses défis. Voilà. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, dans notre culture influence notre façon eh bien, de manifester notre foi. Et aujourd'hui, de quoi on parle beaucoup ? De l'accomplissement personnel. Il faut que je m'accomplisse, que les choses dans ma vie, je sois épanoui. On ne parle que de ça. On n'a pas de conflit dans notre pays, tout va bien, on est en paix. Donc tout est centré sur nous. Donc l'accomplissement personnel est au cœur de toutes les discussions. Le bien-être. Je suis déjà heureux, je suis dans la paix, mais le bien-être, il faut que j'aille me faire masser 3 fois par semaine, tu comprends ? Parce que si je n'ai pas mes 3 massages, je suis un peu irritable avec mon mari. Vous comprenez ? C'est le seul sujet de nos préoccupations finalement. Parfois, ça devient terrible. Et moi, je me mets à la place de Dieu et je me dis, mais attends Seigneur, comment toi tu vois ça ? Il est le même. Le bien-être est essentiel. Le bien-être. Les préoccupations tournent autour de nos possessions, de ce que nous possédons. Eh bien, ma maison, il faut que je m'en occupe, ceci, cela. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, est-ce que toi, tu te préoccupes de ces choses-là ? Ah ! Alors, je ne te dis pas de tout abandonner. C'est pas ce que je te dis. Mais on va lire 1 Pierre, chapitre 4, verset 2. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Aussi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Gardez cette phrase en tête. Armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. D'accord ? Armez-vous de la même pensée. Jacques 1, verset 12 à 15. Vous allez voir ce que produisent nos pensées. Heureux l'homme. l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Oh, ça ne nous plaît pas des masses, ça. Hein? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le désir va commencer dans tes pensées. Lorsque tu es là, que tu dis « Seigneur, je désire faire ta volonté, ta volonté, ta volonté », qu'on te propose toutes sortes de choses, et que tu commences à avoir certaines pensées, tu dois faire attention à tes pensées, eh bien ces pensées-là peuvent t'amener d'une manière très sournoise au péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas alimenter, tu peux laisser le verset, Holden, lorsque tu vas alimenter certaines pensées, tu vas finalement quitter l'autoroute. Tu es sur l'autoroute, tu as une direction, et puis c'est la volonté de Dieu. Et puis toi, il y a certaines pensées qui vont dire, est-ce que tu ne prendrais pas la sortie 4? Sortie 4, c'est vacances en famille, tranquille, pépère. C'est pas mauvais en soi, mais la volonté de Dieu, à ce moment-là, c'était pas forcément ça. Je vous donne des exemples de tous les jours. Sortie 4, tu vas râler contre ton collègue qui est pénible et tu vas bien pester. À ce moment-là, tu sors de l'autoroute. Sortie 5, la colère. Sortie 7, vous pouvez vous amuser comme ça. Il y a énormément de sorties qui vont commencer dans ta pensée. Et à ce moment-là, eh bien, il faut faire quoi? Il faut résister. Vous allez voir un cas pratique. On va prendre Matthieu 16, versets 21-23. Je vous ai dit que les disciples ont souvent essayé de dire à Jésus ce qu'il devait faire, ce qu'il devait penser et ce qu'il devait accomplir. Et Jésus, ça ne lui plaisait pas du tout, parce que son objectif, c'était la volonté de Dieu. Et ça, c'est un verset qui m'a toujours beaucoup parlé, parce qu'on se rend compte comment Jésus est ferme avec ces choses-là. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens. C'est clair pour Jésus, son objectif, c'était de donner sa vie pour l'humanité, donner la possibilité à l'homme, non plus seulement au peuple d'Israël, mais à l'humanité tout entière, d'avoir accès au Père, de goûter à la sainteté de Dieu et d'avoir la vie éternelle. C'est son objectif. Et il commence à dire à ses disciples, je sais que vous êtes des humains, vous êtes des hommes, ça va être dur pour vous, préparez-vous. Et il va commencer à les préparer, il les prépare mentalement. C'est un coach, Jésus. Il sait comment on fonctionne. Il les prépare mentalement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, de souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. On a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il leur annonce, le troisième jour, je serai ressuscité. Alors Pierre, il dit non, pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer, Jésus. Il va le prendre à part. Donc, ça vous arrive de prendre à part Jésus? Ou pas? Moi, ça m'arrive de prendre à part Jésus très souvent. Quand je suis devant le radar, je dis Jésus, franchement, c'est pas normal. Quand j'ai un problème dans ma vie, franchement, Jésus, c'est pas comme ça que ça doit se passer, ça devait pas se passer comme ça. Jésus, franchement. Et on le prend à part. Et on lui dit ces quatre vérités. Parce que les Français, ils aiment bien dire les quatre vérités. Hein? Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Le gars, c'est un prophète. Il a été élu prophète des nations en 30 secondes. Mais il ne parle pas à n'importe qui, il parle à Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Verset suivant. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » L'importance de nos pensées. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, si on veut aller plus loin en tant qu'Église, on doit garder, protéger nos pensées. On est assailli de toutes parts. On est assailli de toutes parts. Par la famille, par les situations, par ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. La Bible nous dit aussi que l'œil est comme la lampe de l'âme. Hein, c'est ça, je n'ai pas bien le verset, mais que tout ce que tu vois, ça rentre. Ça rentre, en fait. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Reste fixé sur la volonté de Dieu. quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Je veux rester fixé sur ça, je ne veux pas prendre une sortie, je veux rester sur l'autoroute parce que mes pensées peuvent me détourner des objectifs de Dieu pour l'Église, pour ma vie et aussi de mes choix va dépendre d'autres vies. Ça marche? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors maintenant, on va faire un travail sur nous-mêmes. Réfléchis maintenant, quelles sont tes pensées par rapport aux choses qui te préoccupent, qui t'inquiètent, peut-être tes doutes, tes peurs. Et pose-toi la question, quelles sont mes pensées? Et tu viens mettre le filtre. Et tu dis, quelles sont mes pensées? Il faut savoir reconnaître nos pensées. Seigneur, j'ai telle pensée, je suis dans, peut-être tu es dans une susceptibilité par rapport à quelque chose, peut-être que tu es en colère, peut-être que tu es inquiet par rapport à quelque chose. Et tu viens et tu dis, Seigneur, voilà, ça c'est ma pensée. À nouveau, tu ne viens pas devant Dieu, le radar qui va te flasher, oh méchant chrétien, ta pensée est mauvaise. Tu viens devant ton Dieu, ton Père, celui qui te pardonne, et tu lui dis, ça c'est ma réalité, c'est ce que je pense réellement. Mais Seigneur, je te donne l'occasion maintenant de m'aider à changer mes pensées pour pouvoir accomplir ta volonté dans ma situation. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à fonctionner. C'est en ça que nous sommes des disciples de Dieu, où on dit j'ai une discipline par rapport à mon caractère, mes attitudes et surtout mes pensées. Parce que tout commence là-haut et ça va enclencher des choix, des décisions qui peuvent être, eh bien, finalement graves pour nous. Est-ce que vous me suivez? Alors ferme tes yeux avec moi, je vais prier pour ça, parce que c'est un point important. Et j'aimerais qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu. Alors Seigneur, je te prie de faire ce que tu sais faire de mieux, nous sonder nos cœurs. Pour toi, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit, c'est l'état de notre cœur. Et Seigneur, c'est pour ça qu'on a accès à toi, H24, heure après heure, minute après minute. Nous pouvons entrer dans ta présence. Et maintenant, ensemble, ta parole nous dit qu'ensemble, on demande quelque chose, tu nous le donnes, Seigneur Jésus, si on est honnête, sincère avec toi. Et Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, faire le scan là, de notre âme, en fait, voir quelles sont nos humeurs. Quelles sont nos... Voilà, il y a des choses, on peut les vivre, ce n'est pas un problème. Mais Seigneur, est-ce que ça ne nous amène pas à quitter, Seigneur, à quitter cette autoroute? Est-ce que, Seigneur, certaines de mes pensées ne viennent pas donner l'autorité, le pouvoir au malin pour venir me flasher, m'accuser, me brider, me lier? Seigneur, je n'ai pas le temps à perdre à être lié. Seigneur, je veux continuer à avancer. Alors viens scanner ma vie, viens scanner mon cœur, viens scanner mes pensées, Seigneur. Seigneur, viens me calibrer à toi. Seigneur, maintenant, tu nous calibres à toi, Seigneur, à ta volonté, à tes pensées, Seigneur. Quelles sont les pensées qui sont sur ton cœur à toi pour notre vie? Comment tu peux nous parler? Comment tu peux nous confirmer certaines choses, Seigneur? Alors Jésus, on s'attend à toi encore aujourd'hui. Amen. Ok. Maintenant, on va voir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que c'est bien, volonté de Dieu. Alors souvent, c'est toujours la question qu'on nous pose le plus, surtout pour les jeunes chrétiens, hein, parce que finalement, on apprend, on découvre comment fonctionner avec le Seigneur. C'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire dans ma réalité, dans les choses concrètes, que ce soit le travail, les enfants, la famille, mon couple? On a envie de suivre Dieu et qu'est-ce que je dois faire? On a envie de faire des pas, on a envie de poser des actes de foi. D'accord? Alors, on va lire Jean 15, versets 5 à 8. Et ensuite, 10 à 13, pour ne pas tout lire, parce que c'est assez gros. Ah, c'est Jésus qui parle, d'accord? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Point. Sans lui, tu peux rien. Ça, c'est un truc, ça doit être clair dans ta tête aussi. Hein. Moi, je suis du genre à croire que parfois, sans lui, je peux quelque chose. Tu vois? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Hein? Non? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Soyez honnête, enfin! Oh! Hein, des fois, on a l'impression que sans Dieu, on peut quand même. On a des capacités, Dieu nous a dotés d'une tête, mais on se rend compte qu'on est vite freiné. Donc ça, il faut s'en souvenir. J'ai accepté Christ, sans lui, je ne peux rien. J'ai besoin de lui. J'ai besoin que, eh bien, il agisse en moi pour que je puisse porter du fruit. C'est ça l'objectif. Donc objectif numéro 1, volonté de Dieu pour ta vie, porter du fruit. Et là, vous allez me dire, c'est quoi porter du fruit? Alors pour chaque vie, c'est différent, d'accord? Il n'y a pas de standard. Mais nous sommes appelés à porter du fruit selon Dieu, c'est-à-dire avoir la même attitude que Christ avait, être un représentant, on est des ambassadeurs, d'accord? Donc mais aussi porter du fruit, c'est aussi témoigner. Qu'est-ce qu'on a dit, le premier objectif de Jésus, c'était quoi? C'était d'amener le salut. Et aujourd'hui, le salut, il est là, il est accessible, mais ça dépend de toi et moi si on l'annonce par notre bouche. Donc ça, c'est un de nos premiers objectifs, la volonté de Dieu, c'est que tu sois capable, d'accord, de témoigner de Christ. Par tes attitudes, par ton caractère, ton comportement et par ce que tu dis publiquement également. Ça marche? Donc, porter du fruit. Ensuite, on va prendre Jean 15, versets 10 à 13. Et si tu peux préparer les versets après. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Voici mon commandement. Donc on a pu Deutéronome fois 50 pages à suivre. Il y a un commandement. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. C'est un grand projet, hein. La volonté de Dieu, soit que tu sois capable de manifester le même amour que lui a manifesté. Je peux t'assurer que ça ne vient pas comme ça facilement, parce que l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est la capacité à se sacrifier pour l'autre, avoir l'autre avant nous-mêmes. Et c'est compliqué. Si tu vois ça qu'au travers d'un sentiment, il faut que j'ai une affinité avec lui pour faire quoi que ce soit. Bah, tu n'as rien compris. S'il faut que tu aies des affinités pour que les gens soient tes amis, bah, c'est compliqué. Parce que Jésus y a dit, vous savez, il allait manger à la table des gens qui étaient abandonnés de la société, il ne les connaissait pas. Et quand il s'asseyait à la table à l'époque, ça voulait dire « je suis ton ami ». Est-ce que tu penses qu'il avait fait 50 soirées avec les gars pour avoir de l'affinité avec eux? Non, non, non. Il y avait un amour profond pour leur âme, pour le salut de leur âme. Et ils voulaient être leur ami, ils voulaient pouvoir être en relation avec eux pour après apprendre à les connaître. Ça marche? Et c'est ce qui se passe avec nous, le salut est accessible. Tu ne connais pas encore Dieu, Dieu te connaît, mais tu ne le connais pas encore et tu dis « Seigneur, j'accepte. » Et il devient ton ami. Ça va? Et lui a donné sa vie pour les autres. Un amour qui déborde. Et cet amour-là, je peux vous dire qu'on doit le découvrir tous les jours. On doit dire « Seigneur, c'est un objectif principal dans ma vie, c'est d'être capable d'aimer comme toi t'as aimé. » Et ça, c'est tous les jours, c'est toute ta vie chrétienne. Tu vas découvrir des choses, tu apprends. Et ce n'est pas facile, mais c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est un fruit pour toi, c'est quelque chose qui va demeurer. Alors, on a reçu ce matin dans l'intercession ce verset, donc c'est plus loin dans la suite de... Je ne l'ai pas pris parce que c'était long, mais on l'a reçu. Et à la suite de ça, Jésus va dire, si vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande, donc aimez, d'accord? T'as la suite, Holden, ou pas du tout? Jusqu'à ce que vous demanderez? Ouais? Ok, vas-y, envoie. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc tu vas apprendre des choses en étant l'ami de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le... Et c'est le verset qu'on avait reçu ce matin à l'intercession. Reviens, ce que tu as mis. Donc toujours l'objectif, c'est de porter du fruit et que votre fruit demeure. Petit point historique, toutes les églises dont on parle dans la Bible aujourd'hui, que vous lisez, Éphèse, machin, tout ça, il n'en existe plus aucune. Il n'y a plus rien, il n'y a que des cendres. Il n'y a plus rien du tout. Mais toi et moi, on est là aujourd'hui. De ces églises, eh bien, il y a quelque chose qui a demeuré, c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que seules trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. C'est ce lieu-là, on ne sait pas ce qui deviendra. Ces chaises, elles vont disparaître, ce pupitre, nous, on va passer, on va tous passer. Et il y a une chose qui doit demeurer, notre fruit en tant qu'Église, c'est que la foi perdure, peu importe où elle va être. Que la foi perdure. On n'est pas là pour construire un fonctionnement, un truc qui va nous amener je ne sais où. On est là pour que la foi demeure. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois seules choses demeureront. Alors, c'est ces choses-là qu'il faut travailler. Seigneur, j'en suis où avec l'amour que toi, tu as eu pour les autres? Où en est mon espérance envers toi? Quel est le degré de ma foi actuellement? Est-ce que j'ai un degré de foi où je suis capable de dire, Seigneur, ce que je vais te demander, je vais le recevoir maintenant? Parce que je suis sur cette autoroute, je suis droit devant toi, je ne suis pas parfait. Parfois, ça flash, je dis au malin, recule. Tu n'as pas de pouvoir sur moi, je me remets dans le droit chemin. Parfois, j'ai envie de sortir. Sortie 4, colère. Sortie 3, déception. Sortie 7, amertume. Sortie 12, me parle pas. D'accord? Donc, on a tous des sorties, on a tous nos failles. Mais c'est de dire, Seigneur, quoi qu'il arrive, je veux rester sur l'autoroute. Je veux rester parce qu'il y a trois choses qui doivent demeurer. C'est du fruit que je veux porter. C'est pas les grandes prophéties qui resteront. Les grandes guérisons, c'est ça, ça ne restera pas, c'est ces trois choses-là qui demeurent. Et ce pasteur, il me disait, deuxième chose de sa petite lamentation qu'il me faisait, hein, c'est important de se lamenter parfois auprès de quelqu'un qui... Hein? Et donc, il me disait, mais tu sais, parfois les gens n'arrivent pas à voir Dieu dans les choses normales, naturelles. Ils attendent que le miraculeux, que le surnaturel, que les choses qui te font frémir. Et pourtant, eh bien, Dieu... Eh bien, c'est révélé dans un buisson à Moïse. On a l'impression que c'est surnaturel, alors que des buissons qui brûlaient dans le désert, c'était commun. La chose qui n'était pas commune, c'est qu'ils ne se consumaient pas. Et là, Moïse a su tourner l'œil et il a su regarder quelque chose de commun et il a vu le surnaturel dans les choses communes. Et là, il m'a parlé 3 minutes, il m'a fait sa prédication, j'étais heureux. Et il m'a béni. Parce que j'ai dit, c'est vrai. N'attends pas les grandes prophéties. N'attends pas les grandes choses. Dieu va te parler. Dieu va bénir son Église. Il y a rien à faire. C'est comme ça. Quand on prie Dieu, il agit. Il y a sa puissance. Je suis le premier. J'aime la puissance du Saint-Esprit. Mais n'attends pas ces choses-là pour rentrer sur l'autoroute et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. N'attends pas que le pasteur te dise ci et ça. N'attends pas que l'autre te prenne par la main. Rentre sur l'autoroute. Prends ta voiture. Suis la réglementation. Dis, Seigneur, ta volonté, c'est que je porte du fruit. Ta volonté, c'est que ma vie change, que je sois un reflet de toi. Ta volonté, c'est que je manifeste l'amour. Ta volonté, c'est que j'ai un corps saint, un esprit saint aussi. Que je sois libre de toutes les chaînes. Ta volonté, c'est que je sache dire au radar, arrête de m'accabler, c'est bon. C'est bon. Je suis dans les clous. Dieu m'a gracié, m'a justifié. Ça marche? Prenez autorité sur les situations et allez plus loin dans la volonté de Dieu pour vos vies.